doesn't matter when you know it's the last day you're gonna live. Well, I'm gonna tell you, I'm gonna tell you, the rule is kill or be killed. Kill or be killed. In Blood City, you better keep your hands on your guns, 'cause if you're looking for troubles, you came to the right place. Well, I'm gonna tell you, well, I'm gonna tell the really kill or be killed. Kill or be killed. You're always welcome. Oh, always welcome to Blood City. You're gonna fight for your life. Don't offend in the 81. Pretty woman or even the man from the law.
Bienvenue dans Patchworld, une émission directe tous les vendredis de 16 à 17h sur les ondes de Radio Canus 102.2. Nous sommes le vendredi 30 novembre 2018. Et aujourd'hui, il fait un temps un petit peu humide, mais pas très froid, vers la place Satonnet en tous les cas. On a un microclimat peut-être. Allez, ce soir, si vous passez pas loin de la place Satonnet, justement, aux ateliers Terreaux, c'est à côté de la place des Terreaux, aux ateliers Terreaux, une exposition de Sarah Chamon qui est peintre, accompagnée d'une interprétation de Zoologie, du pluriel, de Miguel Angel Real. Et c'est interprété par Cécile de Coursol à 18h30 aux ateliers Terreaux. L'adresse 2 rue Sainte-Marie des Terreaux, c'est une petite rue juste avant les escaliers qui montent sur la place des Capucins. Si c'est juste avant de rejoindre l'église de Scientologie, enfin. Donc, le thème de la soirée, c'est sur la nature. Voilà, alors j'ai gardé le suspense. Oui, j'ai un invité, il s'appelle Swan et il va nous parler de bande dessinée. Allez, une petite musique, le temps de prendre sa respiration. Thank you. Le groupe Zoam que vous venez d'entendre. Et nous sommes donc avec notre invité, Swan. Bah écoute, je te laisse la parole, comme ça tu vois dans l'ordre de tout ce que tu nous as amené en bande dessinée, en travail poétique, plastique, le cinéma.
D'accord, ok, je fais tout d'un coup, tout à la suite.
Oui, comme en même temps, s'il te plaît.
En même temps, c'est ça, ouais. Alors, bonjour à tous. Donc, j'ai pris différentes choses. La première, c'est une BD, alors c'est plutôt pour les enfants, pour les 7-11 ans. Une BD que j'ai fait avec William Hogel, qui habite à Nancy. Et qui est sorti aux éditions Jargie, qui sont à Saint-Étienne, c'est Le Grand Méchant Loup Pue des Pieds. Alors, l'histoire, c'est le petit chaperon rouge. Non, ça commence par le Grand Méchant Loup, pardon, qui fait peur à des petits lapins. Et après, il tombe sur le chaperon rouge, et bon, comme tout le monde s'y attend, il va lui foutre la trouille. Sauf que, en fait, le chaperon rouge n'a pas peur. Et alors, je spoil un peu la suite, parce qu'en fait, on apprendra plus tard qu'elle est enrhumée. Et en fait, le Grand Méchant Loup, s'il arrive à faire fuir toutes les bêtes de la forêt, c'est pas parce qu'il fait peur, comme il le croit. C'est juste parce qu'il schlingue un max, parce qu'il s'est pas lavé depuis très très longtemps. Donc après voilà, c'est un peu le début de l'histoire, et après ça continue sur des aventures, sur le grand méchant loup qui va apprendre du coup à déjà prendre des bains, puis ensuite à faire vraiment peur aux gens pour être un vrai grand méchant loup.
On le sent venir de loin alors.
De quoi ?
On le sent venir de loin.
Ouais, c'est ça, ouais, voilà, ouais.
C'est pas toujours le cas donc.
On le sent même depuis la couverture, on voit un peu les émanations des pieds.
Qui fait peur par les odeurs.
C'est ça, mais malgré lui. C'est ça le souci.
Ça me fait penser un peu, dès que tu m'as montré la couverture, à Sylvain et Sylvestre. Parce que c'est dans la forêt, qu'on voit un ours aussi, sur la pochette.
Effectivement, on a dit pas mal ce retour à William, le dessinateur. Moi, je trouve que ça fait aussi un peu Tex Avery. On peut dire que c'est un mélange un peu de BD ancienne avec un côté un peu plus cartoon. Que c'est vrai que ces personnages sont peut-être un peu moins classiques que Sylvain et Sylvestre, mais c'est vrai que je pense que les couleurs et le décor fait pas mal Sylvain et Sylvestre.
Oui, on est tout de suite dans un décor avec une forêt, et puis le loup, l'ours, et puis la petite fille.
Autre BD que j'ai prise.
Pardon, est-ce qu'on la trouve, celle-ci?
Alors normalement, elle est distribuée dans toutes les librairies, au moins les généralistes.
À Lyon, par exemple?
Ouais, normalement, j'ai pas vérifié si elle y était encore. Après, comme elle est sortie en septembre, octobre dernier, je crois.
Ou un site aussi, peut-être?
Bah, Jarji, ça, sur le coup, sur le site de Jarji, ouais, ça s'écrit J-A-R-J-I-2-L-E. Eux, c'est sûr qu'elle est sur leur site. Mais après, ils sont distribués, c'est Macassar, je crois, le diffuseur, peu importe. Mais normalement, c'est vraiment voilà, à la fois les FNAC, aussi les librairies de quartier, si les Barry a aimé le titre et qu'elle veut le diffuser, quoi. Mm-hmm. Et ça coûte 15 euros.
Et ben voilà, pour les vacances de Noël.
Ah oui, c'est vrai, ouais. Alors désolé, il n'y a pas de neige dans la BD, mais...
Là, vous êtes sûr d'avoir quelque chose d'un peu original qui sort du commun, justement, qui ne vient pas d'un truc uniforme.
Ah oui, là, c'est sûr.
Est-ce que le livre y sent?
Non.
Question à deux balles.
Peut-être qu'il sent le papier neuf, peut-être. Celui-ci, peut-être un peu moins, ça me manquait, c'est mon exemplaire, mais. Non, il sent, malheureusement.
Donc il faudra avoir de l'imagination.
Ouais, voilà.
C'est à partir de quel âge, ce genre de livre?
C'est plutôt 7-11 ans. Donc à partir de 6 ans, ils peuvent lire. Hein, y a pas... Même avant, ils peuvent regarder les images, mais c'est plutôt à la tranche.
Oui, dès qu'ils savent lire, en fait.
Oui, voilà, ouais. Avant, sinon, ils regardent les images, mais ils découvriront la BD un peu plus tard, quoi. Ils comprendront.
On leur compte l'histoire. Je veux dire, c'est accessible. Si on veut leur conter une histoire pour s'endormir, pour les tout-petits, ça marche aussi.
Ah oui, oui, oui. Ça les fera peut-être plus marrer que s'endormir, mais oui, ça peut marcher, ouais.
Ça fait pas vraiment peur. Enfin, les tout-petits, non. On peut leur raconter des trucs sur le loup qui pue.
Oui, c'est plus ça. Au contraire, c'est pour faire, enlever la peur du loup, de toute façon, c'est toujours pareil.
Je ne sais plus quel humoriste disait, il y a le loup et il y a le relou.
Enfin voilà, bon, les gens ne voient pas les images à la radio, mais toi tu peux la voir, elle ne fait pas peur, l'image en soi.
Le loup a l'air très énervé et il saute sur... C'est quoi la bestiole dessous?
C'est des taupes.
Une taupe, hein. J'ai cru que c'était une souris de loin. On n'est pas dans la même cabine.
Non, c'est plus un loup foireux et maladroit que vrai.
Oui, il a quelque chose d'assez sympathique finalement. Oui, effectivement, je vois plus le côté Tex Avery maintenant.
Ouais, voilà, là il met des gants MAPA pour faire le ménage avec un bonnet de cheveux, un bonnet de ménage.
Donc il lui arrive plusieurs aventures.
Voilà, ça démarre par le loup. Mmh. Pense qu'en fait qu'il est le grand animal qui effraie tous les animaux de la forêt. Il trouve un petit chaperon rouge, enfin une petite chaperon rouge. Qui décide d'effrayer, mais ça ne marche pas. Du coup, bon, il comprend pas. Puis Chaperon Rouge lui dit qu'en fait, comme je suis enrhumé, je suis sûr que tu pues des pieds. Et du coup, après, petit à petit, voilà, d'abord, ils vont faire un autre test pour être sûr que c'est vraiment ça. Puis le loup va accepter. Du coup, Chaperon Rouge va continuer de lui parler jusqu'à chez lui pour le convaincre de sortir de sa carapace de puanteur qui lui sert plus de protection en fin de compte qu'autre chose. Et d'accepter que ce n'est pas quelqu'un qui fait peur, mais qui. Comment dire ça ? Qui repulse les gens malgré lui. Donc c'est tout l'apprentissage du loup après à refaire peur en sentant bon, en sentant propre, le propre.
D'où les gants de nettoyage après.
Voilà, c'est ça, ouais. Là il fait le ménage de chez lui.
Et du coup, comment ça t'est venu cette idée? Comment on arrive à penser à un loup comme ça?
Alors l'idée, je sais plus. À la base, j'avais pris ça pour faire un album jeunesse. Donc plutôt pour les 3-5 ans. Mais alors je ne sais plus pour quelle raison j'avais conclu qu'en fait la tranche d'âge était un peu basse. Et avec William, on voulait faire une BD ensemble. Du coup, on s'est un peu échangé. Enfin, j'avais un peu envoyé différents types d'idées, d'histoires. Et puis quand il est tombé sur celle-ci, il me dit « Ah, celle-ci, j'avais bien tout ça, mais en BD. » Du coup, je dis « Bah oui, ça marcherait peut-être mieux en BD qu'en album jeunesse. » Du coup, on est parti comme ça. Après, l'idée du grand méchant loup qui pue des pieds, ça je ne sais plus, malheureusement.
Est-ce qu'il y a des symboliques comme on a dans les contes genre Bethlehem, des trucs comme ça, ou non, tout n'est pas du
non,
tout
là, c'est vraiment de la parodie de contes. Par contre, ça parle plus du harcèlement scolaire en fond. En fait, c'est une BD d'humour, mais qui évoque un peu le harcèlement scolaire, parce qu'en fait, on apprend que le loup, en fait, a été victime de harcèlement scolaire dans sa jeunesse. Et c'est pour ça qu'il s'est petit à petit enfermé dans son odeur pour repousser les gens et se faire croire qu'il il ne pouvait pas être aimé en fin de compte. Donc il y a plutôt ce rapport-là, à niveau, on peut dire, un petit peu psychologique, mais pas symbolique, non, pas.
Oh bah super. Et ton dessinateur, tu peux redire le nom, comment tu...
William Ogel.
Il a un site aussi, William Ogel, on peut trouver des choses sur lui ou
j'imagine,
des infos.
Après si on tape, je pense, William Ogel, A-U-G-E-L, sur internet, on trouvera ses autres BD à mon avis.
Comment tu fais tes rencontres avec les gens qui dessinent? C'est différentes façons
Voilà, c'est différentes façons. Alors soit c'est... Par exemple, William, je le connaissais par Jargie, la maison d'édition, parce que c'est une édition indépendante qui est à Saint-Etienne. Du coup, voilà, quand il y a un festival ou je sais pas, une rencontre, on peut se rencontrer comme ça. Sinon, si on voyait des dessins des fois dans des publications locales ou des BD même qui sont éditées, je fais « Ah tiens, ce dessin, ça irait bien avec telle histoire. » Donc j'envoie un mail au gars, puis soit il me répond pas, soit il me dit « Bah non, je suis trop pris, désolé, c'est bien, mais je peux pas. » Soit il me répond, il me dit « Bah oui, pourquoi pas, et puis on teste des choses après. » Mais ça, c'est un peu par différents biais. En gros, soit c'est la rencontre, le bouche à oreille, l'ami d'ami que je rentre comme ça, soit sinon c'est moi qui... Ah, c'est peut-être mieux. Là, on m'entend peut-être mieux quand je parle comme ça, non? Je me suis rapproché du micro. Soit sinon, c'est... Oui, voilà, sinon, c'est moi qui les contacte, en fait, en général.
Et finalement, j'ai l'impression que ce qui est bien dans ce genre de travail, c'est que vous pouvez travailler chacun de votre côté, même si vous êtes éloigné. Tu me disais sur le livre prochain que tu vas nous présenter... La plasticienne, elle est sur Paris, mais vous arrivez quand même à vous trouver des moments. Tiens, on peut travailler avec des gens, même si vous êtes loin géographiquement.
Voilà, c'est possible. Parce qu'on peut dire que c'est un travail un peu de... On peut faire chez soi, en atelier, en travail d'indépendant. Après, c'est quand même mieux. Voilà, pour William, on se voyait quand même de temps en temps quand je passais à Nancy ou à Lyon. Pour Isabelle aussi, Isabelle Fèvre, qui habite à Paris. C'est quand même mieux de se voir au moins 2-3 fois pour faire un peu le point, discuter, puis même se rencontrer. C'est quand même plus sympa, des fois, quand on ne se connaît pas forcément. Et voilà, mais en général, je bosse plutôt avec des gens de Lyon. Mais des fois, oui, ça arrive que ce soit un peu plus éloigné, effectivement.
Est-ce que vous vous donnez un regard sur votre travail? C'est-à-dire que toi, est-ce qu'il a le droit de te dire, bon, bah, cette partie sur le texte, ça me plaît moins, et toi, tu peux dire, ah bah tiens, le dessin, là, ça m'intéresse pas trop, ou chacun fait dans son coin, et puis c'est des compromis, comment ça se passe, le travail de collaboration?
Alors, c'est plutôt la première idée. Ce qu'il faut vraiment, moi, je considère qu'une BD, enfin, c'est pas moi qui considère ça, c'est comme ça. Une BD, de toute façon, il y a deux noms sur la couverture. En tout cas, c'est une histoire de deux personnes. Moi, ce que je dis souvent par mon dessinateur que je rencontre comme ça, il me dit, voilà, est-ce que tu peux bien modifier l'histoire ou pas? Je dis, bah, tant que l'histoire est mieux ensuite, et qu'on perd pas quand même les deux, trois essences que je voulais à la base dans l'histoire, mais des fois, ça tient à peu de choses, hein, juste prendre un personnage ou un thème qui est important pour moi. Ah oui, on peut modifier, il faut même, pour améliorer, parce que si on dit, c'est mon scénario, il est gravé dans le marbre, déjà, le dessinateur, c'est plus un exécutant, puis il va se faire chier. Puis ce sera pas une BD faite à deux, ce sera une BD faite par une personne, et puis quelqu'un qui fait un bout de commande, quoi. Et puis en plus, d'avoir une autre personne, ça enrichit la BD. Et j'avais toujours avec un ami, quand on faisait des films, on se disait, c'est toujours mieux de faire un scénario à deux, parce que déjà, si ça plaît à deux personnes, on est sûr que ça peut plaire à plusieurs personnes. Alors que quand ça plaît qu'à soi, bon, ça se trouve, ça nous plaira qu'à nous, quoi. Ah ouais, non, mais il faut vraiment faire des allers-retours. Donc scénario, bah là, par exemple, celui-ci, typiquement, c'est un album jeunesse. Donc c'est William qui m'a dit, on peut en faire une BD. Donc ça a créé, parce que l'histoire n'était pas aussi longue que ça, pour les plus petits, c'était quand même plus court. Par exemple, à la fin, normalement, il retrouvait en fait le loup était harcelé par les trois petits cochons dans la cour de récréation, et du coup il a retrouvé alors qu'ils avaient fait une parfumerie, et alors je sais plus pour quelle raison William ça plaisait pas trop tout ça, donc on a testé plein de choses. En fin de compte, maintenant le loup retourne à l'orphelinat où tout a commencé, là où il s'est fait harceler, enfin malmené, on va dire, en début de dans sa jeunesse, quoi. Donc oui, il y a plein de choses. Et puis moi, inversement, dans les dessins, au niveau du crayonné, donc là c'est juste une ébauche du découpage, je peux dire, bah non, là je trouve que ça marche pas trop, qu'est-ce que t'en penses, ou là ça marche bien, peut-être qu'il faudrait plutôt telle vue comme ça. Puis après on discute, hein, bien sûr, et il me dit oui, non, etc. Et puis après, pour l'ancrage, normalement tout est figé, mais je peux quand même lui dire, bah tiens, là en fait, c'est plus des erreurs de dessin, même si ça devient un peu plus rare au niveau de l'ancrage, mais voilà, je sais pas, le loup il a pas de cou. Puis là il me dit, non, mais c'est parce qu'en fait c'est la posture qui marche pas, donc il refait les épaules, ou il me dit, ah oui, merde, t'as raison, ça marche pas, donc il lui rajoute un coup.
Et du coup, c'est pas ton premier album pour la jeunesse, celui-ci? T'en as fait combien avant, où t'as pas démarré? Je me souviens d'un autre que tu avais fait, je crois que c'était pas pour la jeunesse, c'était des couleurs rouges, je me souviens. Ça
ah oui, là en BD, ouais. Alors en BD, oui, j'avais fait L'Homme, avec Ulrich.
C'était le premier, il y avait un travail très plastique, je me souviens.
Voilà, c'est ça, ouais. Oui, c'était un peu, expérimental, c'était humoristique expérimental, dans le sens où il y avait une case et une phrase qui décrit la case ou pas au temps présent. Et c'était l'histoire d'un homme, un monsieur tout le monde en fait, c'est pour ça qu'il s'appelle l'homme, qui découvre un jour plein de choses extraordinaires, singulières dans son quotidien. Donc d'abord des micros, qui décide de suivre, puis le film mène à une parabole, puis après ça part un peu en quelque chose d'un peu fantastique, qui a un clochard qui a un tentacule, etc. Puis il y a une folle journée avec plein de chassés croisés, où en fait on se rend compte que le micro c'était pour telle raison, qui était reliée au tentacule du clochard pour telle raison, etc. Quoi. Donc tout ce qui paraissait un peu farfelu avait une explication à la fin.
Comment on passe justement de ces BD pour adultes, on peut dire ça comme ça,
ouais,
à la BD jeunesse? Est-ce qu'il y a eu, c'est des idées qui viennent et comme ça, par envie, ou il y a eu un choix, un moment, un déclic, ou ça se fait en parallèle?
Alors là, en fait, pour Le Grand Méchant Loup Puy des Pieds, comme c'est un album jeunesse, c'est un peu différent, c'est qu'il y a le côté BD et album jeunesse. Et l'album jeunesse, la chose, c'est... Alors la BD, c'est, je ne sais pas comment dire ça, c'est l'histoire qu'on aimerait bien faire lire aux autres, enfin que les autres livres découvrent par eux-mêmes. Et l'album jeunesse, c'est plutôt les histoires qu'on aimerait bien lire, soit à des enfants. Donc voilà, ça vient, la différence, on va dire, tout petit ou adulte, vient de là. Après, l'homme, bon, c'est tout public, hein, et Le Grand Méchant Loup Puy des Pieds, 7-11 ans. Donc là, je me suis pas dit, tiens, ça sera pour les 7-11 ans, mais c'est... je pense vraiment la différence, c'est est-ce que la personne la découvre par elle-même, ou est-ce qu'on aimerait la partager, nous, en tant que lecteur, à quelqu'un. C'est la première différence qui apparaît, quoi.
Alors, bon, j'ai plein d'autres questions, mais comme tu as d'autres bouquins sur la table, on va commencer par, par présenter les autres, et puis je reviendrai sur la jeunesse, si on nous reste du temps.
Ça marche. Alors du coup, j'ai pris une autre BD. Donc celle-ci, elle sera éditée aux éditions Kotoji, qui est une petite maison d'édition indépendante qui est à Nancy d'ailleurs. Mais pour l'instant, on l'a mis le début gratuitement sur Internet, sur Manga Draft.
Alors, là, s'appelle... Les mangas, pour coup, c'est un autre public. C'est à partir de quel âge les jeunes lisent des mangas?
Non, alors bon, là en plus c'est ce qu'on appelle manga européen, c'est plus, alors je sais pas si tu connais Taniguchi, il a fait Quartier Lointain, ou il est décédé.
Je suis assez inculte en manga, je connais quelques films, extraits des mangas.
Alors en fait là c'est pas...
De Chihiro ou des choses comme ça.
Mais... Ça s'approche un peu plus...
Ghost in the Shell, des trucs
Ghost
comme
in
ça.
The Shell, ouais, là en fait c'est un drame, là, c'est plutôt une BD pour adultes hein, pour le coup. Hein. Là, pour le coup, c'est bon, l'ado, il peut le lire, mais il va un peu s'ennuyer, quoi. C'est vraiment un drame. On peut, sans me comparer à ça, c'est un peu comme In the Mood for Love, c'est ça, le film de Wong Kar Wai. C'est plus ce style d'histoire, voilà. C'est pas le même traitement et tout ça.
Il y a un côté, romance, on va dire.
Oui, ouais, tout à fait, ouais.
Relation.
Alors, dans In the Mood for Love, c'est vraiment sentimental. Là, c'est pas une romance sentimentale, mais c'est plus dans le.
Il y a un homme et une femme dans les personnages.
Voilà, par contre. Donc, du coup, ça s'appelle Une Rencontre. Et en fait, soit on suit le point de vue de Yuki, qui est japonaise, qui est venue à Paris pour s'installer avec son fiancé, qui lui est français. Et donc ça, cette histoire-là se lit dans le sens manga, donc de droite à gauche. Et soit, sinon on peut lire l'histoire du point de vue de Maxime, qui lui est un autre Parisien, qui n'a rien à voir avec ce Yuki, et qui lui fait un peu son métro boulot dodo tous les jours à Paris. Et lui, l'histoire se lit dans le sens européen, donc de gauche à droite.
Donc il faut retourner le bouquin.
Voilà, ouais.
Donc faut avoir. Est-ce que tu notes le mode d'emploi?
Bon, on mettra une phrase, mais en fait, quand on a le livre sous la main, c'est assez facile. En fait, soit on lit le livre comme d'habitude du point de vue Maxime, soit si on le retourne, on peut le lire du point de vue de Yuki dans le sens manga. Et l'idée, c'est est-ce qu'ils vont se rencontrer au milieu de l'album. Et l'histoire, c'est en fait, donc tous les deux se sentent pas très bien pour différentes raisons dans leur vie, pour des choses différentes. Et en fait, ils communiquent via un carnet. Qui est en fait le carnet intime de Yuki qu'elle a écrit quand elle était adolescente, qui a amené, elle voulait, en jetant ses souvenirs pour faire table rase du passé, la poubelle, bref, a cédé, puis le carnet est tombé par terre, et Maxime, qui ce jour-là passait par là, parce que le RER était en travaux, tombe sur le carnet, et il écrit à cette personne, donc lui il pense qu'il parle à une adolescente, donc il est plutôt pour la soutenir, pour qu'elle arrive à continuer, et elle, comme... Elle reçoit des messages, elle sait pas trop qui c'est, puis elle s'imagine un peu que c'est son ange protecteur qui vient lui mettre des messages un peu pour la soutenir tous les jours, donc puis il communique comme ça. Et bien sûr, il y a des chassés croisés sans qu'ils sachent qui est l'un et qui est l'autre qui vont s'opérer, pour à la fin savoir, ils vont comprendre qui est l'autre personne. Donc Maxime va comprendre que Yuki en fait est une femme d'une trentaine d'années et pas une adolescente. Yuki va comprendre, même si elle s'en doutait depuis un moment, mais elle va comprendre que Maxime c'est un homme de la quarantaine d'années. Et avec ces échanges-là, est-ce qu'ils vont se rencontrer au bout du compte?
Du coup, on peut dire que l'originalité de ton livre, c'est que le climax se fait au cœur du livre.
Oui, c'est vrai qu'on peut dire ça.
C'est,
oui.
L'idée centrale se trouve au centre du livre.
Oui, c'est vrai. C'est pas forcément à la fin, il est au centre. Et chaque histoire peut se lire indépendamment, mais chaque histoire, on comprend l'équiproquo qui a pu se passer en voyant l'autre point de vue de la personne. Ça vient un peu des scènes. Moi, je sais que j'aime beaucoup Kundera qui me parle beaucoup de ça. C'est qu'un même geste peut être compris d'une personne, par exemple, bien prise par une personne et très mal prise par l'autre.
Genre la vie est ailleurs, des choses comme ça.
La vie est ailleurs, si je ne l'ai pas lu.
Lesquelles t'inspirent? Lesquelles tu...
Alors, il y a le bal des... Je ne sais plus trop quoi.
L'insoutenable légèreté de l'être.
Oui, l'insoutenable légèreté de l'être, oui, suicidé. J'avais beaucoup aimé. Celui que j'ai préféré, c'était le bal, je sais plus, ouais, j'ai oublié le titre.
Ah, je vous invite aussi, j'avais eu l'occasion de lire L'éloge de la lenteur. C'est très bon, très bonne métaphore.
Mais voilà, en tout cas, c'est pour dire, voilà, partager les points de vue, les différences de perception.
Où est-ce qu'on le trouve,
celui-ci ? Alors, celui-ci, du coup, il n'est pas encore édité, il sera édité dans l'année prochaine.
Ah, on
peut le lire presque toute la version du qui. On publie une page par semaine sur Mangadraft. Donc, c'est un site mangadraft.com. Il faut taper une rencontre après, ensuite. Sinon, il y a le Facebook d'Isabelle. Donc là, elle s'appelle Isabelle Pont, P-O-N-S. Donc on peut voir son Facebook. Elle a une page dessinatrice. Et on peut lire vraiment toute l'histoire. Et nous, de toute façon.
Dessinatrice lyonnaise ou parisienne ?
Ouais, elle habite à Lyon.
Ok. Donc on peut trouver aussi ce qu'elle fait d'autre en tant qu'illustratrice.
Oui, elle a plein de sites, plein de machins.
Et toi, Swan, tu as un truc qui référence tout ce qu'on a dit aujourd'hui dans l'émission ? Ou on peut retrouver tous les titres des.
Alors j'essaie de faire mon Facebook, c'est une espèce de blog.
Oui.
Donc il y a mon page Facebook.
Donc on a un peu la liste de tous tes livres.
Ouais, en fait j'ai mis en commentaire, j'ai mis deux liens, j'ai mis un lien en fait deux sites. En fait j'ai tapé Swan Merali, comme ça il y a tous les livres que j'ai fait. Et il y a mon lien Vimeo pour les films.
M-E-R-A-2-L-I.
Ouais, c'est ça, ouais.
Si on tape M-E-R-A-2-L-I, on va trouver Swan. Swan, c'est pas un prénom courant, du coup, t'as pas trop de problèmes,
oui.
D'homonyme. Comme moi, Delphine Dupré, il y en a 15.
Oui, c'est, tu m'étonnes. Et...
Donc c'est facile à googliser, à te repérer.
Oui, peut-être c'est ça la solution. C'est que... Mais oui, en tapant sur deux sites, ou la FNAC, on a les livres, de toute façon. Donc voilà, j'ai pas de site, mais j'essaye un peu. J'ai mis ces liens-là pour faire un petit, centraliser un peu les infos.
Alors, est-ce que quand tu fais tes courts-métrages, tu fais aussi appel à ce qu'on appelle, tu sais, les gens, ce que j'ai appris, c'est qu'ils font aussi des dessins avant.
Ah, les storyboarders ?
Ouais.
Alors, non, je réfléchis, mais non. Alors moi, des fois, je fais des storyboards patates, à la main, parce que je ne sais pas dessiner. Mais non, je ne fais pas appel à les storyboarders, parce que là, après, on prend plus dans un niveau un peu pro, où le bénévolat a forcément un peu ses limites, donc... Je connais quelques personnes qui ont fait du storyboard. De mémoire, c'est plutôt pour des studios d'animation. Il y en a quelques-uns qui sont à Lyon. D'ailleurs, je me demande si Isabelle Fèvre, du livre d'après, je crois qu'elle faisait des storyboards avant, dans l'animation. Celle qui habite à Paris, donc pas Isabelle Pont.
Et du coup, sur les courts-métrages que tu as faits, est-ce qu'il y en a, tu t'es dit, vu que tu es aussi dans la BD, dire tiens, bah, je pourrais peut-être aussi en faire une version BD, même remodifiée, mais partir de cette même histoire et avoir un autre format et...
Ouais, ça, en tout cas, ça arrive. Même des fois de me dire, est-ce que c'est plutôt un film ou un BD ? Alors, c'est rare, mais ça arrive de temps en temps. Et d'ailleurs, c'est très chiant, parce qu'on ne sait pas comment se fixer, parce que même si les deux restent du cadre de la dramaturgie, il y a quand même des différences de traitement, de longueur. En BD, on est beaucoup plus libre, par exemple, dans la longueur. Dans le film, beaucoup moins. Puis en plus, chaque minute demande beaucoup de temps de tournage, d'installation, quand même des moyens, même quand c'est fait en autoproduction. Hein. Donc oui, ça arrive, ouais. Bon, après, c'est, je ne me le souhaite pas.
Est-ce que dans certains courts-métrages, tu dis, c'est... Tiens, j'ai hésité, j'aurais bien vu une autre fin ou d'autres interprétations, ou alors tu sais exactement où tu vas jusqu'au bout, c'est signé, terminé, c'est exactement là où tu voulais aller.
Alors au niveau du scénario, normalement, j'arrive plutôt à me mettre en accord avec moi-même et je sais comment il est. Après, avec le tournage, comme il y a beaucoup d'aléas avec le tournage, si ce n'est des fois des accidents, des manques de moyens, mais aussi des choses où on se rend compte qui rentrent différemment en image qu'en scénario. Hein. Donc avec le tournage, forcément, après, les films est différent de ce que je pensais à la base.
Par rapport au jeu d'acteur, par exemple, ils te font des propositions, ça se passe comment ?
Ah oui.
C'est
en tournage.
Une question de photogénique par rapport à sur la pellicule, ou tu dis finalement non, là il y a trop de texte, ça manque de respiration ou...
Bah tout ça. En fait, tout. C'est comme une BD, il faut tout remettre en question tout le long. Alors pas tout remettre en question dans le sens d'être perdu, mais avoir une base et ensuite de tout se dire est-ce que c'est le mieux possible ? Ah oui, s'il y a trop de texte, il faut enlever. Si l'acteur propose... D'ailleurs, moi, je considère qu'un acteur est celui qui fait plus de propositions que le réel. Voilà, pour qu'il apporte son jeu. Donc, oui, s'il fait une proposition... Après, on voit...
L'esthétisme, peut-être, du cadrage, de la photo de l'image, peut-être, a aussi son aspect artistique et donne aussi un sens.
Ah oui, le cadre, c'est hyper important.
On n'imagine pas quand on écrit le texte, peut-être.
Alors, on essaye d'être le plus proche de la réalité, mais c'est la différence entre un véritable travail abouti ou entre guillemets œuvre d'art et une simple pensée. La pensée, on l'a juste pour soi-même. Enfin, souvent, je dis ça. Je ne l'ai pas encore fait à mes étudiants, mais je l'ai noté pour leur dire l'année prochaine, la différence. Parce que souvent, les jeunes pensent que leur idée est parfaite et que le film à la fin n'est pas à la hauteur de ce qu'ils imaginaient. Mais en fait, c'est un peu l'inverse. C'est que tant que le film ou la BD n'existe pas, on pense qu'elle est parfaite, mais en fait, elle n'existe pas, donc on ne peut pas la juger, quoi. C'est un peu comme un rêve, où des fois, on rêve, je sais pas, on rêve d'une musique, et on se dit, ah, elle est trop géniale, puis quand on se réveille le matin, en fait, c'est une musique toute pourrie. Donc, quand on imagine un film, on retient que le fait, je veux faire un très bon film, mais pas le film en tant que tel. Et le scénario est une des étapes, en fait, un outil de travail pour déjà poser concrètement. Ouais, qu'est-ce que fait le mec? Est-ce qu'il sort de chez lui? Est-ce qu'il a plutôt 40 ans, 50 ans, etc. Et permet de voir vraiment si le film, le plus important, c'est le film final. Donc, pour répondre à la question de tout à l'heure, en fait, en gros, oui, après le tournage, le montage, ça change beaucoup de ce qu'il y avait dans le scénario. Mais c'est le plus important, c'est le film qui est à la fin. Et le but, c'est que même s'il n'est pas comme l'idée de base, il faut qu'il soit meilleur. Quoi,
il existe. Simplement.
Voilà, au moins il existe, il peut être partagé.
Savoir ce que tu m'inspires. C'est de l'amour. Suis des chansons. Celui qui fait mal à en mourir, qui nous fait dire à quoi bon. Toi tu te casses, ça tire d'elle, moi je tombe de la courte échelle que tu m'avais faite un matin. Pour voir par-dessus le mur, pensant qu'à deux c'est bien plus sûr, alors qu'en fait il n'en est rien. Tiens, t'as oublié une plume, je crois. Petit Pierrot à la lune, 2, 3. Je retrouve un poème laissé au départ de l'oiseau blessé. Tu veux savoir ce que tu m'inspires? C'est des regrets de cours d'école. Ceux qui s'effacent sont dans un rire et dans un trop-plein d'éthanol. Toi tu t'en fous, tu te barres, et les tatouages malabar s'effaceront à la première douche. Pas les souvenirs d'épiderme qui sont la source de ces termes murmurés au coin de ta bouche. Tiens, t'as oublié une plume, je crois. Petit Pierrot à la lune, 2, 3. Je retrouve un poème laissé au départ de l'oiseau blessé. Savoir ce que tu m'inspires, c'est tes conneries pour midinette. Des histoires belles et même pires, des où les hommes sont honnêtes. Toi je sais bien que t'es pas un menteur, t'es juste un oiseau migrateur qui se prend pour un bloc de béton et redécouvre à chaque fin que son duvet bien que plus fin l'envole vers d'autres horizons. Tiens, t'as oublié une plume, je crois. Petit Pierrot à la lune, 2, 3. Et si le vent te souffle un jour, qu'avec ton manteau de velours, il a pu te construire un nid. Alors surtout ne tarde pas, reviens doucement sur tes pas. Pour oublier qu'on est amis. Tiens. T'as oublié une plume, je crois. Petit Pierrot à la lune, 2, 3.
Oui, on est parti sur de vastes sujets. On était déjà en train de préparer la prochaine émission. Donc tu me disais, c'était sur l'Algérie, une BD que tu as fait sur...
Ouais, ça s'appelle Algérienne, sur la guerre d'Algérie, du point de vue de point de vue féminin, de femme, tout simplement. Mmh. Et pas des femmes qui sont toutes des grandes résistantes, tout ça. Parce qu'en fait, moi, ça me saoule des fois quand je vois des films sur la Seconde Guerre mondiale, ou des films français dans ce cas-là, sur où, en gros, on est tous des gens moulins. Ou sinon de voir l'histoire, d'ailleurs j'ai acheté une petite brochure pour voir l'histoire de France, où c'est tout suivant le prisme des rois de France. Donc le côté d'une personne qui incarne l'histoire. Donc là c'est à la fois sur des personnes de tout le monde, quoi. Toi, moi, etc. Un voisin, un boulanger, un militaire, etc. Et en plus c'est que des femmes, donc certaines qui sont engagées dans la résistance algérienne, hein, du coup, pour l'indépendance. D'autres qui ne sont pas engagées, d'autres qui ont subi aussi la guerre, des harkis, qui ont subi l'exil par exemple. Et puis aussi l'arrivée en France qui n'était pas non plus très très rose, parce qu'ils ont été dans des camps les camps de concentration qui ont servi pour les juifs et les tziganes, on a mis après les harkis ensuite, quoi. Mais aussi une pied noire. En gros, il y a une pied noire, une harkis, une résistante mitigée et une résistante patriotique.
Donc cette BD est déjà sortie?
Ouais, elle est sortie en février dernier.
Ouais, on la trouve aussi dans les grandes librairies.
Alors là, peut-être qu'elle ne sera pas en rayon, qui devront la commander vu que ça fait un moment. Mais, okay.
Ce qu'on vient d'entendre, c'est Ce que tu m'inspires, et il s'appelle Lucarne. Son prénom, c'est Lucas Lucarne, à tout bout de champ.
Vu qu'on a discuté, du coup, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas écouté.
Je te ferai réécouter, je te ferai l'album. Et peut-être même venir à tout bout de champ, les découvrir, ce qu'ils ont la grande motivation en tant que bénévole d'avoir repris ce lieu à deux avec Mathias Bouffet pour faire découvrir la scène française lyonnaise, mais aussi nationale.
Tout bout de champ, c'est à Vez, c'est ça?
C'est juste à côté, dans les pentes de la Croix-Rousse. Ah. C'est la rue du Tout qui est une impasse. Donc tout bout de champ, T-H-O-U, avec le nom de la rue.
Ok.
C'est très joli, ça fait un peu comme une cave voûtée en pierre, sans rez-de-chaussée, mais ça fait vraiment cave au jazz. Donc un petit clin d'œil, un petit coucou à Lucarne, qui était un de mes premiers invités dans son premier groupe quand j'ai commencé cette émission Patchworld en décembre 2012. Alors, pour revenir à ce qui t'inspire, toi, Swan, autre chose, on part cette fois sur encore un autre univers.
Ouais.
Vaste influence.
Alors là, c'est ce qu'on appelle un livre d'art ou un livre d'artiste. Donc moi, j'avais un peu imaginé, le concept, et j'ai écrit un petit texte. Et j'ai cherché après une plasticienne pour illustrer le texte. Alors, ça s'appelle « Le silence après les mots ». Et donc, je l'ai fait du coup avec Isabelle Favre, F-A-I-V-R-E, qui elle habite à Paris, qui est une plasticienne qui fait beaucoup de livres d'art, livres d'artistes. Et le principe, c'était de... Donc c'est un texte qui parle du silence, pour dire que le silence n'est pas inutile, tout simplement. Déjà, il sert à écouter l'autre au départ, enfin laisser la parole à l'autre s'il veut la prendre. Il sert à plein de choses. Et du coup, je faisais un peu une comparaison entre le silence et tout le blanc qu'il y a sur une page. Parce que souvent, on pense que sur une page, ce qui est important, c'est ce qui est écrit. Mais il y a plein de blanc autour de la page, entre les lettres, entre les mots. Et du coup, le livre, l'idée, donc ce qu'on a fait, c'est que toutes les pages sont blanches. Et il est à la fois imprimé en noir, donc en normal, si vous voulez, pour les voyants, et en braille. Donc on peut à la fois le lire avec les yeux et aussi avec les doigts. Et il n'y a pas de dessin dessiné, c'est du gaufrage. Donc les dessins, il y a des formes qui évoluent tout au long du livre, qui sont en gaufrage. Donc en fait, ça fait un livre qui est donc à la fois lisible par les yeux, mais aussi avec les mains. Donc à la fois pour les voyants, mais aussi les malvoyants, les non-voyants. Et ce qui était pas mal dans cette recherche-là, c'est de voir, se rendre compte, qui est aussi le but en faisant le livre, que le livre, l'accès du livre pour tous, quand j'ai ça comme ça, est assez compliqué, parce que les impressions... Braille peut vite coûter très très cher, que les livres qui sont pensés pour différents publics sont très très rares, etc. Donc ce que j'aimerais, c'est après faire une expo sur le livre pour tous, qui montre différents types de livres. Parce que par exemple, il y a des éditeurs qui cherchent à faire des livres. Il y a un éditeur à Clermont, La Poule qui pond, qui fait des livres pour les enfants dyslexiques, par exemple. Il y a Les Doigts qui rêvent, alors eux, je suppose qu'ils sont en France, ou d'autres maisons d'édition, mais qui sont des associations, hein, donc c'est des gens qui sont bénévoles, qui bossent dedans, qui font des livres pour enfants malvoyants, non-voyants. Mais c'est dit qu'il coûte super cher, il coûte 100 euros, 200, parce que c'est cousu à la main. Donc voilà, enfin, il y a plein de choses à voir et à dire. Il y a aussi la table en braille à Lyon, où c'est un restaurant entièrement dans le noir. On peut manger comme un non-voyant, de cette manière. Donc redécouvrir la nourriture sans les yeux. Et voilà, c'est un peu l'idée. Donc, il y a moi, le livre, Les sciences après les mots, c'est un livre en tant que tel. Mais il s'inscrit aussi dans une démarche de réfléchir au livre pour tous.
Alors, ce livre-là, il est en vente aussi? On le trouve où?
Alors voilà, celui-ci, il est en vente, mais comme chaque exemplaire est fait de manière artisanale et considéré un peu comme en fait un objet d'art, hein, chacun, il a été fait qu'en 10 exemplaires pour le moment. Il sera en 20 exemplaires maximum. Et il est en vente, et par contre, il coûte entre 100 et 200 euros. Et on peut le trouver sur le site d'Isabelle Favre. Alors, elle a un truc qui s'appelle la Maison des Artistes. Donc soit son nom, sinon, je crois qu'elle incite à elle-même, je crois que c'est Isabelle Fèvre, F-A-I-V-R-E. Soit sinon notre site, la Maison des Artistes, et si on tape le silence après les mots, Isabelle Fèvre, on tombe dessus. Mais c'est plutôt un livre à destination d'achat de par des bibliothèques, ce genre d'institutions.
Comment ça s'est passé cette rencontre avec cette plasticienne, parce que du coup elle est sur Paris?
Alors pour elle, je crois que comme je cherchais vraiment un style particulier pour les illustrations, la mise en page, quelque chose d'assez doux, d'assez autour du blanc de toute façon, j'ai dû taper, plasticien ou plasticienne, travail du blanc, tout ça. Et j'avais vu ces réalisations, ces anciennes réalisations, ces précédentes réalisations, qui sont vraiment super chouettes d'ailleurs, sont très très belles. Et du coup, je l'ai contacté, puis elle m'a dit, allez, banco, on fait ça. Après, c'était très long pour trouver comment imprimer le livre. Parce que, alors en gros, les impressions braille qui sont faites par des imprimeurs officiels coûtent très vite cher, donc sont plutôt à destination des musées, par exemple. Et donc, du coup, je suis passé par des associations. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait découvrir que le rapport, l'accompagnement des malvoyants, des non-voyants est assez présent à Lyon. Et donc, il y a l'association par exemple, du Valentin AUI, avec une table en braille, qui est démesurée, bien sûr, qui était installée dans la rue vers les Brotteaux.
Oui, le boulevard des Brotteaux, tout à fait.
Que peu de gens connaissent. Et donc, eux, en fait, m'ont fait passer par l'association Witkowska, qui, eux, peuvent imprimer en braille. Après, ces impressions qui sont en soi assez standards. Et que, donc, nous, on a dû retravailler. Donc, on a fait imprimer sur des impressions standards, pas que ça coûte trop cher. Et après, on a retravaillé les pages, pour ensuite rajouter le texte en noir, puis le gaufrage, la découpe, pour le rendre un peu plus noble, quoi.
En tous les cas, c'est très original, ce côté gaufrage aussi en dessin. C'est-à-dire qu'entre les lignes de ces textes poétiques, on peut toucher le papier et voir les reliefs, sentir les reliefs. Pour les non-voyants, on sent les reliefs. Et en dessous, c'est traduit en braille.
Et il a été testé par une non-voyante. Avant qu'on fasse plusieurs exemplaires, j'en ai emmené un à une non-voyante qui l'a lu et qui avait très bien à lire. Donc qui fonctionne pour les voyants comme les non-voyants.
Allez, une dernière petite pause musicale.
Trop sensible où tout semble impossible. Pourquoi parfois on a l'impression d'être visible, extensible où tout semble possible. Pourquoi parfois on a le plaisir d'être touché, renversé où tout semble commencer. Ah. Où tout semble si grand. Pourquoi parfois on a l'impression d'avoir tout compris. Au final, incompris. Pourquoi parfois on a l'impression d'être le contraire d'une affaire où tout semble affaire. Pourquoi parfois on a l'impression d'être en colère d'une histoire où tout semble clair.
C'est Marie Rubens qu'on vient d'entendre. Rubens, peut-être qu'on dit le S. Rubens, comme le peintre. le titre, c'est... Ça fait bizarre parce que je ne m'entends pas du tout dans les retours. Donc, j'ai vérifié au vu mat si on m'entend bien. A Tempo. Donc, elle a travaillé, je crois, en collaboration avec un musicien. J'essaye de trouver le nom. Donc, texte, basse, voix, c'est Marie Rubens. Donc, elle fait là la basse, les textes et la voix. Et la réalisation de tout, c'est indiqué sur la pochette, Damien Sans la Ville. Voilà, mixage et mastering, MK. Et le graphisme, c'est Fabienne Chemin. Vous pouvez retrouver ses actualités sur www.marierubens.com. Alors, je voulais qu'on termine un petit peu cette émission, Swan, si tu veux bien, pour parler un petit peu de ce que tu fais en court-métrage, en cinéma, et qu'on voie un peu cet aspect-là. Rapidement, c'est juste pour dire, comme je sais que tu as des choses sur Internet, si les gens ont la curiosité et l'envie, peuvent aller jeter un coup d'œil dessus. Mais on avait déjà fait un peu une émission là-dessus, donc ce serait très vaste, donc on va faire une petite chose synthétique pour déjà donner l'occasion aux curieux d'aller voir ce que tu fais. Vas-y, donc raconte-nous les sites, les titres.
Alors là, j'ai un Vimeo, du coup c'est pareil, Vimeo, Swan Merali. Et alors le dernier que j'ai mis d'ailleurs sur internet, alors bon, il y a une deux bandes démo que j'ai mis, peut-être pour un futur film, pour montrer ce que je fais, donc ça c'est pas forcément le plus intéressant. Mais le dernier s'appelle Persona, et il a été tourné de manière semi-participative et semi-improvisée au Vinatier. Donc en fait, on avait fait quelques ateliers vidéo, comme ça spontané, pas du tout, enfin organisé dans le sens où c'était pas avec une finalité à la fin, avec quelques collègues à la base, donc ouvert au personnel encadrant et aussi aux patients, ceux qui voulaient participer tout simplement. Et ensuite le but c'était de tourner donc ce film qu'on a tourné donc maintenant il y a quand même un an et demi je crois, ou presque deux ans, au Vinatier. On était une petite équipe, un couple d'acteurs pros, trois, quatre techniciens, moi compris dedans. Et du coup tous les rôles secondaires ont été joués par soit des personnels encadrants ou médecins par exemple, hein, soit même un homme de ménage aussi on est qui joue, soit par des patients. Et donc moi j'avais écrit une trame, donc on avait vachement travaillé avec les acteurs d'une histoire, mais les dialogues n'étaient pas écrits. Et chaque séquence, là on se disait, tiens, comment est-ce qu'on peut la tourner, qu'est-ce qui peut se passer, tout ça. Voilà, ça c'est le dernier qui est sur Internet.
Tu peux nous donner les sites, les liens, tout ça?
Alors c'est Vimeo. Il faut aller sur Vimeo, c'est comme Dailymotion, mais un peu plus pour les vidéos, un peu, comment dire ça, un peu plus travaillé.
Il y en a combien de vidéos qu'on peut voir sur Internet?
Je sais pas, une huitaine, je pense à peu près.
Si on tape Swan Merali, on tombe tout de suite sur des trucs, c'est...
Moi, je fais comme ça pour retrouver mon lien, donc oui.
Tu peux donner les titres des autres courts-métrages, peut-être?
Alors, il y en a un qui s'appelle Impromptu, un autre Chronique de banlieue, un autre Danson, une pub pour Only Lyon aussi, une petite vidéo pour Only Lyon. Voilà, non, mais si tu tapes Swan Merali, on trouverait, je pense.
Oui, puis si jamais on va, t'as la liste, pareil, dans ton blog...
Oui, voilà, c'est fameux dans ma page Facebook. Sur le petit commentaire à gauche, descriptif, il y a le lien vers la page de site, puis le lien vers les Vimeo, comme ça, on a tout en deux liens, les livres et les films.
Est-ce que tu as des opportunités, ou est-ce que c'est difficile pour des réalisateurs de faire projeter ces courts-métrages sur Lyon ou ailleurs?
Alors,
est-ce qu'il y a des endroits dédiés à ça, ou c'est compliqué? J'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça.
Ouais, je dirais qu'il n'y en a pas tant que ça.
J'aimerais bien découvrir autre chose que du cinéma grand public, et finalement je me dis, mais où est-ce qu'ils sont ces endroits où... Je sais qu'il y a un festival court-métrage à Vau-en-Velin, j'ai reçu une newsletter, mais enfin c'est très ponctuel.
Oui, il faut un peu s'intéresser. Je dirais que ce qui est compliqué, c'est que souvent les lieux, au bout d'un moment, ils ferment, et donc il faut toujours un peu se renseigner pour les nouveaux. Mais il y a une association, c'est l'Accroche Scénariste. Ils ont un site ou un blog, et dessus ils ont publié un article avec les différents lieux où on peut voir du court-métrage à Lyon. Donc s'il y en a qui s'intéressent, ils peuvent aller sur le site de l'Accroche Scénariste.
L'Accroche Scénariste.
Oui, voilà, L'apostrophe Accroche, plus loin Scénariste.
T'en connais à Lyon par exemple? Tu pourrais nous citer?
Alors il y a Aquarium Ciné Café qui est à Croix-Rousse. Eux, je sais qu'ils font du court-métrage, alors pas tous les soirs, mais je sais pas à quel soir. Il y a en festival, il y a le festival aussi de Villeurbanne. Après, là, c'est vrai que pour les autres, je sèche. Mais il y en a aussi de temps en temps, il y a la MJC Mon Plaisir qui font des soirées. Il y a les soirées VHS, la MJC Mon Plaisir. Là, c'est un court-métrage amateur sans sélection, sauf de durée, pas plus de 20 minutes, tout le monde peut participer. Donc il y a vraiment à la fois des amateurs retraités, que des étudiants, que des pros qui vont.
C'est des choses comme ça qui m'intéressent. Une grande diversité.
Oui, et oui, voilà, il y a Crush Scénariste là-bas. Ouais, bon, faudrait que j'y réfléchisse, je pourrais t'en reparler, donc ça te fera une
Ah oui, carrément, puis tiens-nous au courant.
Transmettre
les prochains
la chose.
Que tu diffuses toi-même aussi. Donc, on se donne rendez-vous bientôt donc sur cette BD sur la femme algérienne et.
Algérienne, oui, au pluriel. Ouais.
Algérienne au pluriel et sur la guerre d'Algérie.
Pourquoi pas.
Un grand merci d'être passé. Puis, il y a autre chose, je crois que tu as oublié de nous dire, c'est ton futur projet qui va bientôt sortir sur les rues de Lyon.
Ah oui. Du coup, alors, les rues de Lyon, c'est une association qui s'appelle Épices Séquentielles qui publie tous les mois une petite bande dessinée de 10 pages sur une histoire, une anecdote autour de Lyon et de la région lyonnaise. Donc, je recommande beaucoup. Parce que, d'ailleurs, j'ai découvert en tant que lecteur. Du coup, je les lis tous maintenant. Et là, du coup, on va faire un sur Lyon pendant les événements, d'ailleurs. Donc, pendant les années 60. Alors, moi, ce sera en février, mais il y en a tous les mois. Donc, là, il y en a un en décembre, il y en a un en janvier, et puis tous les mois. On peut aussi s'abonner. C'est pas très cher, c'est 3 euros. 1 euro pour les auteurs, 1 euro pour le libraire, 1 euro pour l'imprimeur. Donc, là, aussi, répartition équitable des sous. Et celle-ci, voilà, ça parlera à la fois du réseau d'entraide franco-algérien, notamment chrétien, qui a été mené à Lyon, qui est assez important. Et je trouve ça bien de rappeler qu'à l'époque, avoir une religion, c'était pas un paraître, mais c'était plutôt une action citoyenne, en fin de compte. Et aussi sur les bidonvilles à Lyon, notamment, par exemple, on a souvent entendu parler du Gon du Shabbat de Azouz Begag, parce qu'a priori, beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de bidonville à Lyon. Alors, d'ailleurs, il y en a même encore, même s'ils sont renvoyés un peu plus loin à chaque fois, mais bon. Et à l'époque, voilà, il y avait beaucoup de bidonvilles, et connaître un peu cette histoire-là aussi.
Alors, suite au prochain épisode, comme ton manga,
ouais.
sur le blog. On peut reciter ou est-ce que tu le diffuses en petite partie là ton
Ah oui, le manga, alors ça c'est sur le site, c'est Manga Draft et ça s'appelle Une Rencontre. Faut taper Une Rencontre pour le retrouver.
Allez, à la prochaine rencontre.
Salut, merci.
Dans les parages, au Farmer, c'est juste en face de l'atmosphère, c'est 14 montées des Carmélites, le Farmer. Il y a un concert à prix libre et il y a deux groupes, Crystal Dinosaur, c'est du mésozoïque psyché. Ne demandez pas exactement ce que c'est, je peux vous dire que c'est un bassiste qui a des pédales avec deux amplis et une batteuse. Et le groupe Plantae, c'est du rock psychédélique. Alors je sais que pareil, le guitariste a un octaveur qui permet de passer dans deux amplis et faire deux choses à la fois. Et puis, juste avant, vous avez le temps de faire deux activités en même temps. C'est l'heure, il va falloir que je vous laisse. C'est aux Ateliers Terreau à 18h, 18h15. J'y vais de ce pas, Ateliers Terreau, donc le spectacle et exposition. À tout à l'heure peut-être. Bisous et bon week-end. Je vous laisse avec On n'est pas des cadeaux.
1, 2, 3, 4.
أنا بنت عربية وبحبك وبحبك.